Voilà, dans mon jardin, j'ai un vieux pommier. C'est un vieux pommier âgé de presque 100 années, hein. C'est quand même... Et donc, j'aime beaucoup ce vieux pommier, hein. Surtout à printemps. Donc, c'est un pommier qui a des racines dans la terre depuis tant d'années. Donc, quand il y a des pommes, hein, je vais vous faire envie maintenant, mais oh, on croque dedans. C'est vraiment magnifique. Et surtout quand tu vas dans le jardin, tu prends une pomme et magnifique. Mais est-ce qu'un pommier qui a une centaine d'années, est-ce que ça produit des pommes vieilles? J'ai pensé à ça l'autre jour, j'ai dit, ah mais quand même c'est un vieux pommier qui est là depuis des années, qui a eu la pluie, qui est tombée sur ses branches, la neige. Mais quand même après toutes ces années, chaque saison, il me donne une pomme jeune, une pomme fraîche. Et ça m'encourage, mon pommier m'encourage, parce que comme tous les hommes, hein, je ne sais pas les femmes, hein, je ne suis pas dans les mystères des hormones féminines, mais je connais les problèmes du cœur de l'homme, des crises de la quarantaine, et moi j'ai quand même 57, et donc ça devient plus grave. Hein. Et donc je suis toujours en quête d'un sens pour ma vie. Je dis, mais Seigneur, même si mes cheveux grisonnent, même si j'ai des racines qui ont connu peut-être des hivers, Et le mauvais temps de temps en temps, je veux toujours porter du fruit. Et je veux que mon fruit soit un fruit jeune. Je ne veux pas être un vieux pommier qui donne un pomme. Oh, mais les pommes, c'est ça le goût de 100 ans. Tu vois? Quelquefois, on garde les pommes dans la cave. Je ne sais pas si... Quelquefois, ça marche, hein. Après une semaine, deux semaines, trois semaines, quatre semaines. Mais quelqu'un dit, oh, mais j'ai gardé mes pommes depuis un mois, deux mois, trois mois. Et... Merci. c'est un goût fade. C'est pas bon. Et j'ai dit, mais Seigneur, ma vie chrétienne, Seigneur, tout le fruit qui sort de moi, que je donne aux autres, mes paroles, Seigneur, que j'ai vraiment un fruit qui est un fruit jeune et un fruit qui est frais. Et donc, Jésus nous parle souvent, il y a beaucoup d'images dans la Bible, hein, des oliviers et des semences. Et il nous donne une énorme image, c'est une image, hein, de son amour, de notre relation avec lui. Et il utilise en Jean chapitre 15, hein, vous connaissez bien certains, mais ce n'est pas grave si vous ne connaissez pas, je vais le lire, hein, et donc je vais vous donner l'histoire. Il dit un jour, je suis le vrai cèpe. Il utilise l'image de la vigne. Bon, dans le nord de la France, on n'a pas beaucoup de vignes. Mais je pense que vous avez visité le sud de la France, l'Italie et tout le reste. Et quand vous voyez ces vignes, et surtout le cèpe, quand il y a vraiment un vieux cèpe là dans la terre, et on dirait que c'est mort. Mais quand il y a le printemps, la paf, il y a des sarments, mais ça pousse à une vitesse. Et après, bien sûr, il faut tailler, il faut laisser les bourgeons et tout ça. Mais Jésus, il dit, je suis le vrai cèpe en Jean 15. Et il utilise cette image pour nous encourager à rester en lui et à porter du fruit. Et donc, comme ce vieux pommier, hein, je change les images, pommier, cèpe, tout ça. Mais le but, c'est de dire, Seigneur, que je porte du fruit dans ma vie. Dans ce même chapitre, hein, chapitre 15 et verset 16, Jésus parle à ses disciples et c'est comme s'il nous parle aujourd'hui. Comme Jésus, comment est-ce qu'on entend la voix de Jésus? Bon, quelquefois on l'entend dans notre cœur, par des intuitions et tout ça, mais il peut nous parler par sa parole, par la prédication. Et quelquefois j'imagine Jésus qui nous parle ce matin au travers de sa parole éternelle. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi. Oh, mais merci Seigneur. Merci. Si vous êtes ici ce matin, vous êtes choisi. Alléluia. C'est bien d'être choisi. C'est, on joue au loto, mon numéro choisi. Et aussi, c'est pas en Angleterre, peut-être on ne fait pas ça en France, mais souvent on devait choisir des équipes de foot. Et à l'école, je me rappelle, bon, j'avais la bronchite quand j'étais à l'école. Je souffrais énormément de maladies et tout ça. Et donc, je n'étais pas très sportif. Et donc là, on choisissait en premier les meilleurs. Je ne sais pas si on fait ça. Et si tu n'as jamais fait la douloureuse expérience d'être le dernier choisi pour jouer au foot. On choisit. Les enfants sont cruels quand même, parce qu'on le fait sentir. C'est tous les héros qui sont choisis avant, les musclés, les beaux et tout ça. Voilà, toujours, ah, je veux lui. Et là, ça diminue, toi, t'es toujours là. Et après, on le choisit comme le dernier, comme le fardeau. Mais Dieu t'a pas choisi comme ça. Tu vois, il t'a pas dit, oh, mais quand même. Pauvre Jacques, je le choisis en dernier pour venir à l'église. Non, il n'a pas dit ça. Il nous choisit tous le premier. C'est magnifique. Il a porté son choix sur nous. Et il dit, voilà, je te choisis, tu es choisi. Et même si les autres ne t'aiment pas, tant pis pour eux. Même si les autres ne te choisissent pas, tant pis pour eux. Même si les autres te rejettent, même si les autres t'insultent, tant pis pour eux. Parce que toi, t'es choisi. Et t'es pas choisi par n'importe qui. C'est encore, quelquefois, je faisais les discos dans ma jeunesse, tu vois. On danse, et quand tu vas dans une balle ou quelque chose, bon, normalement, à l'époque, c'était l'homme qui choisissait la femme. Maintenant, ça a changé, hein, parce que là, je sais pas, maintenant, il y a des mystères. Mais il n'y a rien de pire de ne pas être choisi par le prince charmant. Tu vois, et donc les femmes doivent mettre tout leur charme pour être choisies. Tu vois, c'est pas encore là. Mais il faut imaginer le grand prince, le meilleur prince charmant du monde, c'est Jésus-Christ, qui aime son épouse. Et il te choisit ce matin. Il dit, tu veux danser avec moi? Oui. Tu vois, et la vie chrétienne, c'est de danser avec Jésus. C'est de danser avec le Saint-Esprit. Chaque jour, de danser une danse de grâce, et de miséricorde, et de rédemption, et de pardon, d'apprendre le rythme. C'est pas le rythme de ce monde, c'est pas le rythme difficile de ce monde, mais apprendre à danser. Je sais que moi, je danse pas toujours très bien. Moi, j'essaie de faire les discos, et j'essaie de danser avec les pygmées autour d'un feu, pas de problème. Mais les vraies danses, quand tu danses avec un partenaire, et tu dois trouver le rythme, là, c'est ce que Dieu nous enseigne. Ça, c'est la vie de disciple. C'est d'apprendre à danser dans les pas de Jésus. Mais il nous choisit. Veux-tu danser avec moi? Pas juste pour dimanche matin, mais tous les jours. Tous les jours de ta vie, apprendre à danser avec Jésus-Christ. À danser cette danse de grâce, de pardon, d'intimité. C'est magnifique. Et c'est ça le Saint-Esprit. Tu apprends à changer de rythme. Peut-être certaines personnes doivent changer de rythme. Parce que nous, on va trop vite, on va trop long. Pour être, voilà, au rythme de Jésus. Et aussi, bon, je suis traditionnaliste un peu, souvent c'est l'homme qui conduit. C'est l'homme qui conduit. C'est quelqu'un qui faisait les twists dans le passage. Le rock. C'est ça. Mais c'est souvent l'homme qui conduit, qui donne les signes, tu vois. Et ça donne la sécurité. On peut même faire les acrobaties si l'homme est solide. Mais si l'homme n'est pas solide, c'est difficile. Mais Jésus, il sait bien faire tous les mouvements. Et c'est de marcher, d'apprendre à marcher, à danser avec le Saint-Esprit. Et donc, il nous a choisis et il nous a établis afin que vous alliez et que vous portiez du fruit. Un fruit qui demeure. J'ai dit, oh mais Seigneur, c'est ça l'aspiration de mon cœur. Je ne veux pas terminer stérile, tout sec. Voilà, les gens me disent bonjour. Je ne regarde même pas mes yeux. aucun fruit qui reste, aucun sourire, rien. Les gens, il n'y a que des chardons. Je suis piquant. Non, je ne veux pas terminer ma vie comme ça. Je veux avoir un fruit frais à offrir à l'autre et un fruit frais à offrir à Dieu. Et donc, il nous a choisis pour porter du fruit. Et le fruit, c'est l'amour, n'est-ce pas? Il y a deux fruits. Il y a le fruit de notre caractère. Et là, c'est facile. C'est en Galates 5, hein, pour ceux qui connaissent le fruit de l'esprit. Hein, Galates, c'est quoi? C'est comme Paul écrivait aux Turcs, là, aux Galates. Il dit, le fruit de l'esprit, c'est 5:22, pour ceux qui suivent. Mais le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Alléluia. Le fruit de l'esprit est amour, joie, paix, patience. Quelquefois, je dis, mais Seigneur, ma patience est un peu comme une de ces pommes qui est dans la cave depuis 2 ans. Ça, c'est un peu fade. Quelquefois, j'ai besoin de renouveler. Je renouvelle ce fruit de l'esprit. Et ça, c'est un fruit que Dieu veut continuer chaque saison à renouveler dans notre vie, le fruit de l'esprit, le fruit de notre caractère. Mais bien sûr, ça c'est une chose, ça c'est entre moi et Dieu. Mais Dieu, il veut aussi nous donner un fruit qui est notre ministère, hein? C'est notre service pour les autres. Aimer les autres, aimer Dieu, aimer nous-mêmes, mais aimer les autres. Et en Matthieu, la fin de Matthieu, il a dit, faites de toutes les nations les disciples. Et donc Dieu, il a un peu deux fruits pour nous. C'est un fruit, mais en deux sens. Un fruit de nous changer, de nous remplir d'amour et le fruit de l'esprit, mais aussi un fruit qui est au service des autres, de gagner des âmes, que les gens rencontrent Jésus, que notre Église puisse grandir, avoir un fruit frais et faire des disciples pour le Seigneur. Et donc, revenons à Jean 15. Et donc, verset 8. Dit « Mon Père est glorifié en ceci, que vous portiez beaucoup de fruits. » Et là, quand je lis ça, je dis « Mais glorifie ton nom, Seigneur. » Mais ce n'est pas juste virtuel et « Voilà, glorifie ton nom, Seigneur. » Mais allez, glorifie ton nom parce qu'il y a beaucoup de fruits dans l'Église. Parce qu'il y a beaucoup de fruits dans ma vie. Parce qu'il y a la fraîcheur, parce qu'il y a la vie. Et c'est une prière en moi en ce moment. Je dis, mais Seigneur, donne-nous du fruit. Glorifie ton nom dans l'Église en France. Glorifie ton nom dans l'Église à Wavrin. En nous donnant du fruit. Parce que le Père est glorifié. Que vous portiez beaucoup de fruits. Vous serez mes disciples. Et donc, j'ai dit, d'accord, je vais faire un grand effort. Je vais être super évangéliste. Je vais harceler tout le monde. Non. Parce que c'est impossible de le faire tout seul. C'est impossible de porter du fruit. Quelquefois, je dis, oh, je vais essayer d'être gentil. Plus j'essaye d'être gentil, plus je deviens méchant. C'est bizarre, hein? Et donc, plus je fais de l'effort pour me changer, je me flagelle, voilà, tac, tac, tac. Non, 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 non. Il dit, vous ne pouvez rien faire tout seul. Hein? Et verset 5, la dernière partie, hein, il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Et après, en verset 3 ou 4, il dit, de même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus si vous ne demeurez en moi. Et donc là, la grande clé, la grande réponse pour tout, c'est quoi? C'est de demeurer comme le sarment doit demeurer sur le cep. Si nous voulons porter du fruit, Il faut demeurer en Jésus. Demeurer en Jésus. Si j'ai appris quand je me suis marié que si je voulais des enfants, je devais demeurer sous le même toit que Sylviane. Et après, c'était pour préciser la chose, je devais demeurer dans le même lit. Je ne vais pas plus loin. Mais c'est une loi géographique. Et je dirais, si vous voulez être féconde pour Jésus, si vous voulez changer, il ne faut pas vivre en Afrique et Jésus en France. Il faut être en proximité avec lui. Et quelquefois, il y a un grand mot qu'on utilise, qu'on comprend mal, quelquefois c'est le mot la repentance. Et la repentance, ça veut dire changer de direction. Quelquefois, Jésus est là et moi je suis là. Je suis loin de lui parce que je suis têtu, je suis dans ma voix, je suis tout enragé, tout en rébellion. Bon, on est tous comme ça quelquefois. Mais si tu veux porter du fruit, quelquefois il faut changer un peu de direction et être avec Jésus. Demeurez en moi comme moi en vous. Il y a trois manières de demeurer en Jésus, d'accord? Et verset 7 nous donne une. Il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous. D'accord? Mes paroles demeurent en vous. Comment est-ce que vous pouvez demeurer, être dans le même lit que Jésus? C'est que vous avez votre Bible. D'accord? Vous êtes une personne qui lit la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu. C'est une manière de demeurer en Jésus. D'accord? C'est une manière de demeurer en Jésus par la parole. Et en disant ça, ce n'est pas un devoir. Ce n'est pas dire, oh, tu dois absolument. C'est quelque chose qui devient une gentille habitude. Quelquefois, j'ai de développer un amour pour la parole de Dieu. Et de lire des choses qui sont faciles à lire. Il ne faut pas toujours commencer avec les grandes listes de Lévitique ou de nombres. Voilà, telle et telle a apporté une assiette en argent pour... Et tu lis ça 50 fois, c'est un peu ennuyant. Ou comment ils ont coupé le sacrifice avec des rognons. Tu dis, voilà, c'est un livre de recettes que j'ai ici. Mais bon, ça c'est intéressant. On peut toujours... Si jamais vous voulez lire tout ça, mais il faut lire l'Évangile de Jean. Il faut lire Corinthiens, il faut lire des choses qui sont faciles à lire. Il faut commencer là où c'est abordable. Et ça nous nourrit, ça révèle Jésus. Et donc, il faut demeurer dans ma parole. Et après, tout près, hein, après, on verse toujours dans notre verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Donc, il parle de la prière. Et la prière, c'est une manière aussi de rester au lit avec Jésus, de rester bien au chaud. Et la prière n'est pas toujours des listes ou de dire des phrases, comme des prêtres disent, des phrases toutes ornées de machins et de mots religieux. La prière, c'est juste une sorte de dialogue. Parce que vous dialoguez toute la journée, non, avec vos pensées. Je pense, hein, non? Vous êtes toujours en train de dialoguer avec vous-même. Oh, tel et tel fait ça. Tel... Oh, il m'a blessé. Si vous pouviez écrire tout ce qui... Vous êtes tout le temps en dialogue ici. Et il faut juste inviter une autre personne à cette conversation. C'est ça la prière. Inviter une autre personne à dialoguer. Et souvent, vous allez voir vos pensées, ça va dans tous les sens. Et quelquefois, ce n'est pas toujours gentil. Mais si vous invitez une autre pensée, tu dis, voilà, juste pensez Jésus. Je dialogue, je t'invite à dialoguer. J'invite une autre personne sur Skype. Tu vois, maintenant, on peut faire des conversations à multi-personnes. Et on invite une autre personne à la conversation. Et vous allez voir, ça change tout. C'est comme ça la prière. Et vous allez parler avec lui aussi. Quelquefois, c'est mélangé. Mais bien sûr, notre vie est mélangée. Je ne suis pas Saint Robert qui est totalement toujours branché, toujours demeurant en Jésus, parfait, voilà, ça brille partout, de temps en temps, hein, mais quelquefois, il y a toutes sortes de choses. Et donc, nous sommes tous, on n'a pas besoin d'être parfait. La prière, quelquefois, on dit, ah, mais il prie, oh, la prière, c'est un homme de... Mais la prière, c'est de dialoguer, c'est d'inviter Jésus à dialoguer avec vos pensées. Et quand vous grandissez dans la prière, Quelquefois, vous pouvez même faire des réunions de prière avec d'autres où vous parlez. Et ce qui était là peut être vocalisé de temps en temps. Mais voilà, la prière, la parole. Mais si vous voulez vraiment rester au lit avec Jésus, dans cette danse avec lui, il y a une voie par excellence. Et en lisant verset 9, c'est magnifique. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Oh Seigneur. C'est juste d'aimer Dieu, d'avoir l'amour. De dire voilà Seigneur, je veux aimer. Je veux aimer. Et l'amour nous attache à Dieu. L'amour. Et quand je parle d'amour, je ne dis pas l'amour à l'eau de rose. Gainsbourg, moi je t'aime, moi je t'aime moi non plus. Tu vois, c'est pas. Non, c'est pas forcément juste cet amour-là. C'est l'amour où il y a sacrifice. L'amour qui se donne à l'autre. C'est l'amour d'un maman qui se sacrifie pour ses enfants. Et c'est l'amour que tout le monde connaît, cet amour. C'est l'amour d'un mari qui se sacrifie pour sa femme. C'est l'amour qui coûte quelque chose. C'est l'amour qui n'est pas facile. Et même, je dirais, un non-chrétien, quelqu'un qui n'est pas versé dans toutes les profondeurs de l'Église, s'il aime comme ça, il y a quelque chose de Jésus en lui. Si on aime comme ça, pardon, avec des vrais sacrifices, il y a quelque chose de Jésus. Chaque amour comme ça a une valeur. Je ne peux pas crier ça assez haut. Chaque amour qui se sacrifie a une valeur, une grande valeur. Et c'est ça où vous restez vraiment attaché à Jésus. C'est en aimant. Et bien sûr, cet amour, c'est obéissance et sacrifice attaché. Obéissance et sacrifice. Verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour. Ah, ça c'est... Oh. Moi, je voulais juste l'émotion. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je voulais juste un joli chant. Non, il dit, mais il faut m'obéir aussi. C'est comme ça. Si Sylviane dit, oh, je t'aime, je t'aime, je t'aime, elle ne me cuisine jamais un repas, je dis, ben merci. Obéis à ton mari de temps en temps. Mais c'est vrai qu'il faut... Et même si moi, je dis, mais Sylviane, je t'aime, je t'aime, je t'aime, mais je vais en vacances avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas très gentil. Et donc, il y a une certaine obéissance attachée à l'amour. Il y a une certaine rigueur et l'obéissance à la parole. Ce n'est pas juste émotionnel, il y a l'obéissance. Mais après, verset 12, c'est incroyable. Voici mon commandement. Voilà, oh, qu'est-ce qu'il va nous dire? Allez à l'église tous les dimanches, donnez de l'argent. Non, il ne dit pas ça. Il dit, voici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Et après, il dit cette phrase magnifique. Il n'y a pas pour personne de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Waouh, c'est ce que Jésus a fait. Il a montré l'exemple. Ce n'était pas juste le blabla. Il a dit, voilà, je vous aime, je vais mourir pour vous. Et j'ai dit, je me rappelle, quand j'étais un petit garçon, j'étais dans une famille ouvrière, j'étais très loin de l'église, on ne parlait jamais de Dieu, rien, mon père, blablabla. C'était normal, quoi, la vie, existence normale en Angleterre. Et une fois, on voyait à la télé une histoire qui était l'histoire d'une femme, Gladys Aylward. Elle est allée en Chine pour aider les orphelins. Et une fois, elle doit traverser les collines et tout ça avec tous ses enfants pour s'échapper de l'armée japonaise. Et donc, c'est très émouvant comme film. C'est un ancien film, hein, les années 50 et tout ça. Et elle a un homme dans son équipe, un autre japonais qui est gentil. Et tout d'un coup, ils tombent dans une embuscade. Et tout d'un coup, pour sauver les enfants et les autres, ce gentil japonais, il dit, voilà, moi. Et il court. Et voilà, il est descendu. Et il meurt. Et je me rappelle qu'en regardant ça, j'ai été touché. Mon cœur d'enfant était touché. Je ne voulais pas pleurer, hein, un garçon, il ne pleure jamais, mais j'étais touché. Et mon papa m'a dit, un homme qui travaillait, un homme ouvrier, un homme qui ne savait pas tellement bien lire, il m'a dit, oh, mais tu sais, Robert, cet homme va directement au ciel, parce qu'il a donné sa vie pour l'autre. Et si quelqu'un donne sa vie pour quelqu'un, il va directement au ciel. Et tu vois, même avant de connaître Dieu et tout ça, j'étais évangélisé par mon papa. Quand il m'a dit ça, et mon père n'a jamais mis ses pieds dans une église, hein, c'était pas un homme. Mais quand je pense, il y a quelque chose dans notre ADN, dans l'ADN de l'humanité qui sait que si tu te donnes à l'autre, il y a quelque chose de Jésus dans ça. Un amour qui se sacrifie, un amour qui se donne, un amour qui est obéissant jusqu'à la mort. Mais ça vaut plus que toutes les blablas évangéliques qu'on peut amasser dans nos églises, n'est-ce pas? Pardonne-moi Seigneur. Mais tu vois, je vais dans des réunions où les gens parlent. Il dit toutes sortes de choses et il juge. Mais est-ce qu'il aime? Est-ce qu'il aime? Et je dirais quelquefois, les derniers seront les premiers au ciel. Parce que Dieu, il pèse les cœurs et il sait qui a aimé. Et c'est ça qu'il dit. Il dit, si tu veux porter du fruit dans ta vie, il faut aimer. Il faut aimer. Et il faut aimer, pas la Serge Gainsbourg, mais il faut aimer avec l'exemple de Jésus-Christ, avec sacrifice et obéissance. Et voilà. Et donc, moi, je suis où dans tout ça? Aujourd'hui, je suis où? Est-ce que je suis là en train de porter du fruit? Est-ce que j'ai besoin de renouveler mon fruit? Bon, c'est bien. Mais il y a un autre problème, parce qu'au début de ce passage, il dit, mon père est le vigneron, je suis le vrai cep. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Wow! Et tout sarment qui porte du fruit, ah, ça c'est moi, je porte du fruit, il l'émonde. Ah! Il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. Et donc, quand on est émondé, c'est dur. C'est dur, il y a des temps de larmes. Moi, j'ai taillé une vigne une fois. Et j'étais étonné comment la vigne pleurait. Et je dirais que dans la même église, tu peux avoir les gens, c'est leur saison de porter du fruit. Waouh, super. Et donc, ça va, ça. Waouh, super. Mais il y a d'autres qui sont en train d'être émondés parce qu'ils ont déjà porté du fruit, mais paf. Et il dit, j'ai tout perdu. J'ai tout perdu. J'ai rien. Et quelquefois, ça peut durer, ces moments d'être émondés. Et donc, si c'est vous, courage. Il y a un temps pour pleurer. Et ceux qui sèment en larmes vont récolter avec cris de joie. Et donc, je pense qu'il y a toute une dynamique avec Dieu. Ce n'est pas toujours victoire, j'ai beaucoup de fruits, voilà, tac, tac, tac. C'est bien d'être là. Mais il y a aussi des moments quand, après avoir porté du fruit, tu vas être émondé. Et après avoir aimé beaucoup, donné, peut-être qu'il y a des moments où Dieu te taille et il te prépare pour aimer encore. Et il y a un chant que j'aime en anglais, hein, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit qui m'inspire ces chants ce matin, mais il y a un chant qui dit « The first cut is the deepest », la première blessure est la plus profonde. C'est un chant d'amour et c'est une femme qui dit oh, « The first cut is the deepest ». Et après elle dit « Est-ce que je vais apprendre à aimer de nouveau ?» Tu vois? Est-ce que je vais apprendre ?« Will I learn to love again ?» Est-ce que je vais apprendre à aimer de nouveau. Et c'est ça le défi. Quand tu es émondé et que le premier fruit part, c'est manger, voilà, merci. Et tu attends cette nouvelle saison, c'est très difficile. Parce que quelquefois tu dis non, je ne vais plus. C'est trop dur. Cette coupure-là, tu as coupé trop près, Seigneur. Mais tu peux toujours, je veux te dire ce matin, tu peux apprendre à aimer de nouveau. Et si tu es émondé, c'est pour porter plus de fruits à l'avenir. Et plus tu es émondé, plus ça va porter du fruit à l'avenir. Et donc, courage si vous vivez un temps d'être émondé. Mais surtout, et donc, soit on porte du fruit, soit on est émondé, on pleure, mais on reste dans l'attente. On sent quand même qu'il y a une sève qui monte. Mais il ne faut pas sécher. Il ne faut pas être retranché. Et si vous avez été tellement loin de tout ça, il te dit, oh mais je suis un peu sec, attention, allez, rebranche-toi, ose aimer de nouveau, ose la parole de nouveau, ose la prière de nouveau, c'est possible, tout est possible, je suis où, émondé, pour porter du fruit, mais surtout pas retranché. Et pour terminer, où est-ce que je veux être après ce culte? Et là, Jésus, il dit, je ne vous appelle plus serviteur. Ça, le mot là, c'est doulos. Et ça veut dire esclave même, en grec. Doulos, esclave. Je vous appelle plus esclave. Parce que l'esclave, il ne sait pas ce que fait son maître. Il n'a aucune intimité, il n'a aucun dialogue, il n'a aucune parole. Il est juste là, pour les jeux. Il est l'esclave. Il y a beaucoup d'esclaves dans nos églises. Les gens qui vont à la messe, mais ils ne savent rien. Ils ne savent pas ce que Dieu fait, où il va, où le vent souffle. Ils sont juste là. Et même on parle d'amour, tout ça, blablabla. Mais il dit, je ne vous appelle plus. Dieu ne veut pas une relation d'esclave avec nous. Et il dit, je vous appelle ami. Je vous ai appelé ami. Parce que tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Tout ce que j'ai appris de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Et l'esclave, il ne sait pas ce que le Père, il ne sait pas ce que fait son maître. Il ne sait pas, il est dans l'ignorance, il n'a aucune vision. Mais Dieu, il nous appelle à une révélation et à une action. D'accord? C'est ça l'amitié. C'est une révélation. Voilà, je ne suis pas juste dans l'église. Je ne suis pas juste dans la religion. Doulos, l'esclave. Voilà. Non, je suis en train de danser avec Jésus. Je suis au lit avec Jésus. Il me transforme. Il me donne du fruit. Je suis en chemin avec lui. Peut-être que je suis émondé, mais je sais que ma vie a un sens. Je dialogue avec lui. Je suis dans sa parole. Je suis dans la prière. Je suis dans l'amour. Je suis un ami de Jésus. Je ne suis pas un esclave. Je suis un ami. Et le mot pour ami, c'est philos. C'est là où on a Philadelphie. C'est la ville de la fraternité. Philos. Philosophie. L'amour, la fraternité avec la sagesse. Tout ça. Philo. Et donc, notre grand choix... C'est est-ce que je vais être doulos ou est-ce que je vais être philos? Le doulos, c'est la religion, c'est l'esclavage, c'est voilà, bam, bam, bam. Mais on ne connaît rien, on n'a aucune direction, il n'y a aucune transformation. Mais quand tu es vraiment branché à Jésus, quand tu demeures vraiment en Christ, c'est le philos et c'est l'amitié. Et quand tu parles avec un ami, il te comprend, il te dit des blagues. Il te comprend, il est généreux, il te dit les quatre vérités de temps en temps aussi, quand tu es prêt. C'est bien, mais c'est ça la relation que Dieu veut avec son Église. Pas doulos, mais philos. Je vous appelle ami. Et quand tu es un ami, verset 11, « Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète. » Et même quelquefois quand tu es émondé, c'est douloureux, mais tu sais au plus profond que toi que tu partages la joie de Jésus. La joie de l'amitié avec Jésus. Et donc voilà, qu'est-ce que c'est l'Église? Des amis ensemble qui portent du fruit. C'est ça que je veux. Voilà, notre symbole des apôtres. Bon, je suis pour tout ça, hein, symbole des apôtres, saint credo, voilà, machin. Tout. Je suis pour toute la théologie, alléluia. Mais essentiellement, qu'est-ce que nous voulons être? C'est même pas un bâtiment. L'Église n'est pas juste un bâtiment, c'est pas une croix, c'est pas un signe. C'est des amis ensemble, vivants, nourris de la vie de Jésus. Des amis ensemble qui portent du fruit dans ce monde. C'est tellement simple. Demeurons en Jésus-Christ ensemble. Et je vais prier. Hein, et si vous avez besoin, peut-être vous êtes émondé aujourd'hui. Oh mince. Mais vous pouvez apprendre à aimer de nouveau. Ça prépare du fruit. C'est même bien quelquefois d'être émondé par Jésus parce que ça prépare une nouvelle saison. Mais peut-être vous êtes bien là avec du fruit. Mais vraiment que le Seigneur nous appelle amis. Et que nous portons du fruit ensemble. Et donc, Seigneur, nous voici devant toi. Seigneur, tu connais ceux qui pleurent parce qu'ils pensent que la saison d'amour, la saison d'avoir porté du fruit est terminée. Mais le Seigneur te dit ce matin, non, c'est juste passager. Et tu vas apprendre à aimer de nouveau. Tu peux tout recommencer et tu porteras de nouveau le fruit de l'amour dans ta vie. Et Seigneur, pour ceux qui se réjouissent de voir ces transformations, ces changements en eux, Seigneur, que ça continue, que tu nous aides à porter du fruit. Et quelquefois, c'est vrai, le grain doit tomber en terre et mourir pour porter beaucoup de fruits. Et donc, c'est jamais facile d'être enterré et de recommencer une nouvelle saison, mais c'est la loi de la vie. Et donc, Seigneur, fortifie-nous si nous passons par des moments difficiles. Mais Seigneur, donne-nous cette vision d'être des amis ensemble qui portent du fruit. Seigneur, donne-nous d'apprendre à prier. Donne-nous d'apprendre à lire ta parole. Mais surtout, Seigneur, donne-nous à pouvoir aimer les uns les autres, d'aimer nos familles, nos enfants, ceux qui sont autour de nous, de leur pardonner. C'est aussi un signe d'amour de leur pardonner, d'apprendre à marcher avec eux, d'apprendre à servir, d'apprendre à obéir. Et apprendre à même se sacrifier pour l'autre. Oh Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas faire ça. Seigneur, donne-nous cette sève de l'amour maintenant qui monte en nous. Seigneur, donne-nous ce don de ta vie. Seigneur, cette sève qui monte et qui nous transforme et qui nous donne la capacité d'aimer. Seigneur, merci car tu m'as transformé et merci car je suis avec mes amis. Je ne suis plus doulos, mais je suis philos. Je suis ton ami et ensemble avec mes frères et sœurs, je veux porter du fruit pour ta gloire. Amen.